Bonjour, je suis Annie Pibaro, donc je vous présente ici la conférence qui était prévue le 5 mai à l'UTT de Montpellier, conférence annulée à cause de la crise sanitaire et du confinement. Ce que je vais dire se réfère directement à un diaporama, hein, une série de diapositives, donc je vous suggère de consulter et de suivre pendant que vous m'écoutez. Donc sur la première diapositive, vous trouvez le titre de la conférence, Michel Léris, la traversée du XXe siècle, et j'ai indiqué mon adresse mail. Pour vous permettre, si vous le souhaitez, après avoir écouté ce que je vais dire, de me contacter ou de me poser des questions ou de formuler des points de désaccord. Voilà, au centre de cette conférence, il y a un écrivain, Michel Léris, qui a vécu entre 1901 et 1990. Mais qui avait d'autres identités. Hein. Il n'était pas seulement écrivain. Il était écrivain, autobiographe et poète. Hein. Il était également ethnologue professionnel. Hein, c'était son métier. Il était critique d'art. On peut dire aussi que c'était un homme engagé qui a suivi les grands événements politiques, les grands courants d'idées du XXe siècle, que c'était un grand voyageur, et il a été également spécialiste de jazz et de tauromachie. Je souhaite préciser à propos de tauromachie qu'à l'époque où Léris s'intéressait principalement à cet art, les années 30, les années 50, 60, la place de la tauromachie était tout autre dans la société française que ce qu'elle est aujourd'hui. Et elle était un centre d'intérêt important pour un certain nombre de peintres, Picasso en particulier, et également d'autres écrivains comme Henri de Monterland ou Ernest Hemingway. Alors pourquoi parler de Léris? Pourquoi s'intéresser à cet écrivain? Alors Léris est connu comme poète, mais peut-être plus encore comme autobiographe. Donc il a publié une première autobiographie, puis une seconde autobiographie en quatre volumes. Et on considère qu'il a parfaitement illustrer ce genre littéraire et même qu'il a, sous des formes originales, au point qu'on peut dire qu'il a renouvelé ce genre et anticipé sur le développement ultérieur des formes d'écriture de soi à la fin du XXe siècle, au XXIe siècle. Un signe de l'actualité de Léris qui. Actualité irrégulière, hein, ce n'est pas un des écrivains les plus connus du XXe siècle, mais un signe quand même de présence dans la vie culturelle française. Donc, à travers deux expositions récentes, Léris et compagnie, qui a eu lieu en 2015 au Centre Pompidou-Metz, et l'exposition beaucoup plus récente, dont Bacon en toutes lettres, donc consacrée au peintre Francis Bacon, mais dans sa relation à la littérature. Donc, une grande partie de cette exposition, qui a eu lieu jusqu'à il y a quelques mois, a été consacrée à la relation entre Bacon et Léris. Et enfin, ce qui sert plus ou moins de problématique pour cette conférence est le fait, maintes fois constaté par les critiques, que les dates de sa vie, 1901-1990, coïncident plus ou moins avec les limites du XXe siècle, et que Léris, qui était un homme extrêmement, à la fois torturé et qui était constamment dans le questionnement, hein, qui est allé vers des expériences qui ont été artistiques qui ont été parmi les plus fortes du XXe siècle, donc en particulier le surréalisme, les débuts de l'ethnologie française, et en 1945 la revue Les Temps modernes, donc dirigée par Sartre, mais dont l'expérience à laquelle Léris a participé. Et qui diffusait des idées autour, par exemple, de l'engagement de l'écrivain, idées auxquelles Léris a adhéré à ce moment-là. Je vous indique ensuite le plan de cette conférence. Donc, je vous fournirai d'abord un certain nombre de repères, ce que j'ai intitulé Vue d'ensemble, hein. Des repères sur la vie de Léris et sur donc ces courants de l'art, de la littérature et des sciences humaines auxquels il a participé. Et ensuite, je procéderai à ce que je pourrais appeler trois focus, trois gros plans. Sur trois questions qui me semblent essentielles, celle du surréalisme et de la relation au langage, celle de l'écriture de soi et du renouvellement donc des formes d'écriture autobiographique et du lien avec la peinture. Voilà, et j'amorce donc cette vue d'ensemble. Léris est né en 1901 à Paris, dans un milieu qu'on peut qualifier de la bourgeoisie cultivée, hein, c'est-à-dire c'était un milieu aisé. Son père était agent de change, pardon, c'est-à-dire qu'il travaillait à la bourse, mais c'était également un mélomane qui réunissait auprès de lui des musiciens pour jouer et qui gérait la fortune, l'argent d'un certain nombre d'écrivains. Et parmi eux, il y avait Raymond Roussel, donc, qui est devenu un ami de Léris et qui est donc un écrivain assez important du début du XXe siècle. Donc voilà, Léris a grandi dans ce milieu. Il avait deux frères. Il vivait dans la famille des Léris. Une jeune femme que Léris considérait comme sa sœur, qui en fait était une cousine. Et si je le mentionne, c'est parce que c'est la première manifestation dans la vie de Léris de ce qu'on appelle en général les secrets de famille, hein, c'est-à-dire qu'on avait fait croire à Léris que c'était sa sœur, alors que c'était une cousine orpheline. Et voilà, et le secret est revenu une autre fois, je vais en parler. En son temps, et c'est l'une des caractéristiques donc de l'arrière-plan, comment dire, psychologique et affectif dans lequel il a grandi. Alors, ses débuts littéraires, Léris les fait en compagnie d'un peintre principalement, donc qui est André Masson. André Masson avait au début des années 20 un atelier qui se trouvait rue Blomet à Paris. Son voisin d'atelier était Miro. Et autour de ces deux artistes se réunissaient d'autres artistes et des écrivains, au point qu'on a parlé de groupe de la rue Blomet. Léris s'est mis à les fréquenter. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a écrit son premier le recueil publié ensuite, Simulacre, qui est un recueil de poèmes. Et ce recueil de poèmes a été, entre guillemets, illustré par André Masson, mais Léris a toujours tenu à dire que il ne s'était pas agi d'un texte dans lequel l'écriture était première, mais d'une véritable œuvre conçue à deux, hein, sans antériorité de la peinture ou de l'écriture, et vraiment conçue à quatre mains entre lui et André Masson. Et c'est avec André Masson et ce groupe de la rue Blomet que Léris, en 1924, rejoint le groupe surréaliste. Alors, le groupe surréaliste, à cette époque-là, était à une période un petit peu particulière de son histoire, qu'on considère en général comme un temps de structuration du mouvement. Avant le milieu des années 20, le surréalisme s'est progressivement dégagé d'un courant antérieur qui est le courant Dada. Et alors que Dada était principalement destructeur, iconoclaste, voulait surtout, ne voulait pas créer d'œuvres d'art. Hein. L'idée c'était de ne pas créer d'œuvres d'art, mais surtout de critiquer, voilà, montrer les limites des formes académiques et traditionnelles d'expression littéraire et de peinture. Et donc autour des années 20, le surréalisme donc se détourne de ce côté destructif pour aller vers quelque chose de plus structuré. Et parmi les expériences ou les pratiques dominantes du groupe surréaliste quand Michel Liris le rejoint, on peut mentionner trois directions. Donc la première est autour du récit de rêve et des expériences d'hypnose collective hein, que pratiquaient les surréalistes, c'est-à-dire ils se réunissaient, écrivaient ensemble ou à plusieurs ce qu'ils ont défini comme l'écriture automatique. Alors l'écriture automatique, selon Breton, c'est la dictée de la pensée en dehors du contrôle de la raison, hein, c'est-à-dire écrire au fil de la plume, sans censurer, sans avoir un but, hein, sans se dire qu'on va parler de telle ou telle chose. Et donc l'écriture automatique suit souvent une pensée donc désinhibée, donc quelquefois à l'aide de drogue ou dans un état proche de l'hypnose. Et à côté de l'écriture automatique, les surréalistes pratiquaient le récit de rêve parce qu'ils étaient également très influencés par Sigmund Freud, c'était la période où les premiers textes du père de la psychanalyse étaient traduits en français. Et bon, c'était l'arrière-plan théorique du surréalisme à cette époque-là. Seconde dimension, ce qu'on a appelé les scandales dans l'histoire du surréalisme, c'est-à-dire des actes de provocation publique et des actes très critiques vis-à-vis de la littérature qui les a précédés ou qu'ils considéraient comme académiques ou institutionnels. Donc Léris a participé à l'un de ces scandales. C'était le banquet Saint-Paul-Roux. Donc Saint-Paul-Roux est un poète que les surréalistes aimaient beaucoup. Et donc pour cette raison, ils ont été invités à un repas d'hommage à Saint-Paul-Roux, mais rencontre qui a rapidement dégénéré pratiquement en bataille entre la jeune garde surréaliste et des écrivains plus âgés et plus attachés aux institutions traditionnelles des lettres. Et au point que Léris, ce jour-là, s'est mis sur le balcon, s'est adressé à la foule en criant à bas la France, et ensuite a même été arrêté par la police. Et c'est souvent le souvenir qu'ont conservé de lui les histoires de la littérature. Voilà, c'est systématiquement mentionné dans les histoires du surréalisme, notamment l'histoire du surréalisme de Maurice Nadeau, qui est considéré comme un texte de référence. Et troisième dimension du surréalisme à cette époque-là, un questionnement sur l'engagement politique, engagement politique qui, selon eux, devait prendre la forme de l'adhésion au Parti communiste. C'était alors l'époque de la guerre du Rif au Maroc, qui était une guerre coloniale, et où les surréalistes comme les communistes étaient violemment anticolonialistes et donc se rejoignaient sur ce point. Donc cette directive de l'adhésion au Parti communiste a été suivie par quelques membres du groupe surréaliste. Léris l'a fait en 1927, mais ça a été une expérience rapide et il s'est éloigné assez rapidement. Il s'est éloigné peu après du communisme. Donc pendant la même période, Léris se marie et bon, c'est quelque chose d'important. Il épouse Louise Godon, qui est la belle-fille du galeriste Daniel-Henri Kahnweiler. Il faut préciser deux choses, hein. D'abord que cette galerie est une importante galerie à Paris qui a parmi les peintres qu'il vendait et représentait un grand nombre de peintres cubistes. Peu connus au moment où ils ont été pris par la galerie et qui sont devenus ensuite très très chers et très célèbres. Donc c'est une galerie importante. Et Louise Godon était la fille de l'épouse de Kahnweiler. Et je parlais tout à l'heure de seconde intervention du secret dans la vie de Léris. Louise Godon était présentée comme la sœur de l'épouse d'Henri Kahnweiler pour des raisons de convenance bourgeoise, puisqu'elle était née d'un couple de jeunesse de cette femme, et voilà, et donc on cachait qu'il s'agissait de sa fille, et c'est un secret qui a été maintenu pendant très longtemps, puisque la vérité n'a été connue qu'après le décès de Lyris. L'expérience surréaliste a été pour Lyris à la fois une adhésion profonde, hein, qui l'a gardée toute sa vie, mais aussi une expérience un petit peu troublante. Lyris a dit par exemple que sa participation aux expériences d'écriture automatique, de récits de rêves, de psychose collective, avait entraîné chez lui des troubles psychologiques, hein, de l'ordre d'une dissociation entre le réel et l'imaginaire, le réel et le langage, au point qu'il s'est senti très mal et, pour fuir cette crise personnelle, a entrepris un voyage, donc en 1927, en Égypte et en Grèce. Et cette même année, 1927, donc Lyris s'éloigne du surréalisme, avec lequel il ne rompra officiellement qu'en 1929, au terme d'une crise assez violente qui a impliqué d'autres membres du groupe. Une crise violente et douloureuse. Et donc la même année 1929, il se lance dans une psychanalyse. Alors, il convient aussi de préciser que la psychanalyse à la fin des années 20 n'avait rien à voir avec les formes de la psychanalyse actuelle, hein. Il n'y avait pas eu encore notamment de diffusion dans la société française comparable à ce qui aura lieu après la Seconde Guerre mondiale, et également dans les années 70. Et voilà, cette psychanalyse, disons, est une expérience rare pour les personnes de sa génération et a été menée dans des conditions tout à fait libre et informel, avec un médecin qui s'appelait Adrien Borel. Au même moment, Lyris commence à travailler pour une revue qui s'appelle Documents, qui était une revue particulièrement audacieuse et d'avant-garde, qui accordait une grande importance à la peinture, à la représentation du corps. Et à d'autres genres moins reconnus, comme par exemple le cinéma. Il était beaucoup question de cinéma, beaucoup question de jazz également dans cette revue. Par l'intermédiaire de Documents, Lyris fait la connaissance de Marcel Griaule. Marcel Griaule est un ethnologue français et un des premiers à s'être lancé dans des missions sur le terrain, hein, c'est-à-dire des voyages d'exploration et de collecte d'objets culturels en Afrique. Et il a proposé à Lyris de participer à une mission en 1931-33, qui était la mission Dakar-Djibouti, qui, comme son nom l'indique, a été une traversée de l'Afrique d'ouest en est, dans le but de collecter des objets rituels, des objets d'art, des manuscrits, des instruments de musique, des animaux, etc., qui ont tous été ramenés en France et dont une grande partie a rempli les galeries du musée de l'Aube et sans doute après du musée du Quai Branly. Beaucoup plus tard, on a qualifié de pillage, hein, ce qu'avait fait la mission Dakar-Djibouti. Vous savez peut-être que la question de la restitution des œuvres d'art africaines à leur pays d'origine est une question d'actualité. Voilà, et Lyris a participé donc au tout début à la constitution de l'ethnographie comme discipline reconnue, hein, discipline universitaire également. Et il faut savoir aussi qu'à cette époque-là, l'ethnographie faisait encore partie des sciences de la nature et pas des sciences humaines, et que l'ethnographie entretenait beaucoup de liens avec le colonialisme. Lyris avait choisi d'être secrétaire archiviste, c'est-à-dire c'était lui qui tenait le compte des objets rassemblés et de ce que faisait la mission. Et il a, outre les fiches qu'il devait officiellement remplir, il a tenu pendant les 2 ans où il était en Afrique avec cette mission, le journal de son voyage. Donc ce journal a été publié beaucoup plus tard, non pas beaucoup plus tard, a été publié l'année suivante en 1934. Donc c'est L'Afrique fantôme, un très beau titre qui a été trouvé par André Malraux, qui travaillait alors aux éditions Gallimard, qui ont publié le livre. Et c'est un livre qui est à la fois, qui a un versant, comment dire, versant sciences humaines, hein, qui se rapporte à l'ethnographie, mais qui est aussi un ouvrage littéraire. Et vers le milieu du livre se trouve un passage extrêmement intéressant, dans lequel Iris s'interroge sur ce qu'il est en train de faire en tenant un journal comme ça, un journal de voyage, et où il arrive à la conclusion que c'est extrêmement important pour quelqu'un qui voudrait connaître l'Afrique de savoir ce qu'il appelle le coefficient d'erreur. Ce qu'il appelle le coefficient d'erreur, c'est-à-dire la vision un petit peu biaisée, modifiée par la subjectivité de l'observateur. Et donc cette idée que le journal de recherche est important, justement parce qu'il permet de savoir comment, de qui il émane et en quoi les cadres de pensée de celui qui se lance dans une recherche peuvent avoir une influence sur celle-ci, est une idée qui recevra une reconnaissance et un écho beaucoup plus tardif en sociologie, avec des chercheurs comme René Lourau ou Jeanne Favré-Sada, voilà, bien plus tard. L'IRIS ensuite donc fait le choix d'études d'ethnologie dans les années 30. Précédemment, il avait fait, je ne l'ai pas dit, des études assez rapidement interrompues de chimie, et il a mis d'une certaine façon beaucoup de temps à trouver sa voie professionnelle, et il la trouve donc dans l'ethnologie, il commence à travailler au Musée de l'Homme, donc il est chercheur. Il publiera des travaux, hein, par la suite, et ces travaux porteront sur, ce seront toujours des travaux d'études africaines, qui porteront sur 2 thèmes. Hein, l'un sera la langue secrète des Dogons, hein, Dogons, peuple africain. Qui possède une langue secrète, donc l'IRIS étudiera, étudiera, et également sur les cultes de possession dans la région de l'Éthiopie, Abyssinie à l'époque. Voilà, en 1939, l'IRIS publie sa première autobiographie, L'âge d'homme, hein, autobiographie dont je parlerai plus longuement dans la partie spécifiquement consacrée à ce mode d'écriture. Ensuite, il y a la Seconde Guerre mondiale. L'IRIS est d'abord mobilisée, quelques années seulement, en tant que chimiste en Algérie. Vivra des expériences dont il parlera dans sa seconde autobiographie, mais qui ont été importantes pour lui. Ensuite, quand il reviendra à Paris, il participera à la résistance intellectuelle. Ce que j'entends par là, c'est il publie des articles dans des revues clandestines. Il est également très proche d'un des premiers réseaux de résistance, qui est le réseau du Musée de l'Homme où il travaille. Et il a caché chez lui Déborah Lifshitz, qui est une collègue juive, mais qui sera arrêtée chez lui et déportée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un autre événement important est le fait que la galerie Kahnweiler est séquestrée, car considérée comme bien juif, et afin de lui permettre de continuer à exister et surtout de conserver le fond de tableau. Donc Louise Leiris, l'épouse de Michel Leiris, reprend la galerie Kahnweiler qui devient la galerie Louise Leiris. Et pendant la Seconde Guerre mondiale également se développe une amitié entre Leiris et Sartre. Donc, à la libération en 1945, quand est créée la revue Les Temps modernes autour de Sartre, Léris est membre du premier comité de rédaction et participe donc à cette revue, dans laquelle il publie notamment un texte intitulé De la littérature considérée comme une tauromachie, qui est une préface à la réédition de L'âge d'homme en 1945, texte dans lequel Léris s'interroge sur la signification différente prise par ce livre en 1945, après l'expérience de la résistance, de l'occupation, de la résistance et de la déportation, signification différente de celle qui était celle de ce livre en 1939. Il publie en 4 volumes une seconde autobiographie, dont je parlerai tout à l'heure, et son engagement en tant qu'ethnologue a pour conséquence le développement d'un combat qu'on peut qualifier de tiers-mondiste ou d'anticolonialiste, qui publie des articles autour de la notion de race, et surtout du refus de la hiérarchie des races et même de l'idée que cette notion est tout à fait inappropriée pour parler de l'espèce humaine. Donc ces races et civilisations et encore l'ethnographe devant le colonialisme, et il y en a eu plusieurs autres. Une autre amitié s'est développée à cette époque-là entre Léris et Aimé Césaire, donc de qui il était très proche. Donc vous voyez dans quel courant d'idées se situe voilà, se situent ses convictions et ses combats de Léris. En 1957, il tente de se suicider. Cette tentative de suicide a été une tentative assez dure, hein, avec des barbituriques. Il est resté plusieurs mois, enfin assez longtemps dans le coma. Et Léris a été toute sa vie un homme extrêmement tourmenté. Dans la direction du combat que je mentionnais tout à l'heure, donc pour le tiers-mondisme et combat politique au sens large, donc il est signataire en 1960 du manifeste des 121, signataire et peut-être même un des principaux rédacteurs, donc manifeste qui appelle à l'insoumission et à la désertion lors de la guerre d'Algérie. Pendant toute cette période de sa vie, à partir des années 60 ou 50 plutôt, il voyage beaucoup, il voyage en Chine, il voyage à Cuba, et tous ces voyages donnent lieu à des élaborations littéraires, soit dans la règle du jeu, soit dans des textes séparés. En 1971, il prend sa retraite du Musée de l'Homme. Il conservera son bureau et retournera travailler où il retournera travailler également après. En 1980, il refuse le Grand Prix national des lettres. Alors vous savez que Sartre a également refusé le prix Nobel de littérature en 1964. Donc Léris se situe dans la même lignée, une lignée qui refuse les honneurs sous cette forme-là et les institutions officielles de la littérature qui, selon lui, se situent dans un autre domaine. Je profite de cette mention pour dire que Léris, dont les dernières années de la vie ont été contemporaines d'une certaine médiatisation de l'image de l'écrivain, hein, c'était l'époque des émissions d'apostrophe et certains écrivains étaient très présents dans les médias, un phénomène qui s'est beaucoup amplifié depuis. Et Léris a toujours refusé de se prêter à des apparitions publiques. Il a été très peu filmé, par exemple. Il n'existe que très peu d'entretiens avec lui. Donc il écrit d'autres livres, Le ruban au cou d'Olympia, Langage t'engage, Accord à cri, Image de marque, qui tous sont des livres en partie autobiographiques, on peut dire que ce sont des auto-essais, hein, ce sont également des essais, tous de forme fragmentaire, avec des parties de réflexion théorique et de récits autobiographiques et également de poésie. Accor et Acry est une réflexion sur un thème qui aura beaucoup d'importance pour Léris, qui est celle du cri, du son, de la sonorité. Donc Léris est décédée en 1990, peu après son épouse, 2 ans après. Il n'avait pas d'enfant. Donc il a légué d'une certaine façon sa collection d'art à l'État, au musée d'art moderne, hein, à la galerie de Beaubourg, collection de tableaux des plus grands artistes peintres du XXe siècle et d'objets d'art africain, qui a donné lieu à une première importante exposition qui lui était consacrée en 1985. Il disposait au moment où il est décédé d'une fortune considérable qui était liée à sa carrière d'écrivain en petite partie, mais surtout à la galerie de sa femme. Et donc il a légué cette fortune à trois ONG, donc qui œuvrent pour vous voyez, la Ligue des droits de l'homme, qui œuvre contre le racisme et dans la direction qu'on peut dire globalement, dans une direction qu'on peut dire globalement tiers-mondiste. Et dernier point, pour son œuvre littéraire, comme il n'avait pas d'héritier, il a choisi un héritier littéraire, qui est Jean Jamin, qui était un de ses collègues au Musée de l'Homme, également un africaniste. Et donc Jean Jamin est la personne qui décide pour les publications et republications des livres de Léris ou des textes posthumes. Il y a eu beaucoup de publications posthumes et la principale a été son journal, donc 2 ans après le décès. Journal qui a la particularité de couvrir une période de vie assez longue, 1922-1989, en un seul volume. Voilà, j'arrête là, arrivé au terme de ces repères, disons, bio et bibliographiques. Et dans un second document audio, je vous présenterai les 3 focus que j'ai choisis sur 3 aspects importants de l'œuvre de Léris.